Alors je vais essayer de parler un peu fort, malgré le souffle. Moi, j'aimerais un jour, d'abord, je vais commencer par ça, j'aimerais bien un jour qu'on réfléchisse ensemble sur le mystère de l'histoire. Parce que l'histoire, générale, c'est un don de Dieu. C'est le don de la vie que nous avons, avec tout son développement, et un don qui aurait dû être un don parfait, mais avec la cassure du péché originel, qui a donc amené des difficultés. Et cette histoire, elle est non seulement une difficulté dans le monde actuel, mais elle est dans chacun de nous. Et ce qu'il y a, c'est que le fond, c'est que nous avons une histoire sacrée. Nous sommes engagés dans une histoire sacrée et nous refaisons cette consécration, même à chaque prière, d'être des gens consacrés. Et l'histoire franciscaine se déroule dans un contexte de consécration, un contexte sacré. Alors peut-être que c'est difficile de dire des choses comme ça quand dans notre histoire actuelle, c'est le laïcisme qui l'emporte. Mais le laïcisme, ce n'est pas la vérité. Le fond, c'est depuis les origines, depuis les origines bibliques, c'est Dieu qui est le roi de ce monde, et les Hébreux en étaient convaincus. Si ensuite il y a eu une royauté, ça a été Samuel, et indépendamment de Samuel, il ne voulait pas, ce prophète, que ce soit autrement que Dieu qui soit le roi de cette histoire. Et Dieu lui a dit, laisse faire quand même, parce que c'était un moment où Israël voulait faire comme toutes les autres nations. Bon, au fond des choses, à partir de ce moment-là, quand on lit l'histoire, c'est qu'il y a un mouvement interne à l'histoire, et qui s'appelle le messianisme, et qui arrivera jusque très rapidement, enfin à travers tout un ensemble d'événements et de siècles, qui arrivera au Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment-là, à nouveau, on retrouvera la vérité de l'histoire. Et cette vérité, maintenant, transcende l'histoire actuelle. Et nous appartenons à une histoire qui est celle de la royauté du Christ. Alors, il y a un très grand problème dans notre histoire humaine française. Nous avons oublié que c'est Clovis qui a baptisé la France, et que la France était un pays qui vivait d'une certaine consécration. C'était reconnu. Il y avait une fonction, il y avait une mission particulière à la France. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait méditer, être d'accord ou pas d'accord. Mais je trouve que si un jour nous avions la possibilité de réfléchir sur ce mystère de l'histoire, alors c'est dans ce contexte général, qu'on peut parler de l'histoire franciscaine maintenant. Donc dans une histoire qui est une histoire sacrée, dans laquelle François est apparu, et avec une mission particulière au sein de cette histoire. D'abord, quand il est apparu, donc François, c'est en 1181, 1226. Et à son époque, déjà, la société féodale avait déjà connu des bouleversements. C'est surtout les bouleversements dans la vie monastique. Étaient apparues des réformes. C'est pas la première fois. Il y avait les Camaldules, les Chartreux, les grands Montains, les Prémontérés, c'est-à-dire les Vaudois, les Cathares, les Albigeois, c'est pas les pauvres catholiques aussi de Lyon. C'est pour dire que c'était déjà un mouvement, une pâte qui était déjà très très travaillée. Travaillé par des réformes. Et François arrive dans ce contexte-là, Alors, c'est là que va se faire la naissance de l'ordre franciscain. D'abord au temps de François, premièrement. Au temps de François, eh bien, ce que l'on remarque peut-être pour l'histoire qui va suivre, c'est son obéissance à l'Église. C'est un point important. François va mener effectivement une réforme, mais il va la mener dans l'Église, contrairement à tous les autres mouvements qui se sont manifestés. C'est en fait qui est François quand il apparaît. Ce n'est qu'un chef charismatique, sans plus, qui va entrer difficilement, mais aussi qui va comprendre la nécessité d'obéissance à l'Église. Et l'Église va s'emparer de son projet. Ça ne va pas être difficile, ça va pas être sans difficulté. Mais on peut voir, quand on regarde la vie de François, les nombreuses attitudes de François qui vont dans le sens d'un homme d'Église. Ce n'est pas uniquement un chef charismatique où il apprendra à travers son ministère charismatique, il apprendra même à ses dépens, parce qu'il aura beaucoup souffert, il faudra qu'il dépose, si on veut, au pied de l'Église, l'œuvre qu'il a accomplie. Alors, on trouve de nombreuses attitudes de François qui vont dans ce sens. C'est d'abord sa remise au tout départ par la protection de l'évêque quand il va se séparer de son père. C'est déjà un aspect déjà de cette volonté de François de s'en remettre à l'Église. Deuxièmement, on voit aussi sa volonté d'aller demander à Rome, au pape Innocent III, la reconnaissance de la première fraternité et l'approbation de la règle de 1209. Ça veut dire que 109, déjà, il comprend la nécessité de la remettre dans l'Église. Troisièmement, sous la direction du cardinal Hugolin, qui va diviser l'ordre, grandissant en province, il envoie des messagers à l'étranger. Et c'est petit à petit que cet ordre va s'étendre jusqu'à l'Orient. Innocent III meurt en 1216. Il est remplacé par Honorius III. Et alors, c'est alors que le pape va approuver la règle et qu'il va organiser l'ordre avec un ministre général à vie. Et ce chapitre général doit se réunir tous les 3 ans. Ensuite, à Pentecôte 1224, les frères vont vivre en fraternité stable dans une maison avec une église. Ils ne seront plus itinérants. On voit qu'en peu de temps, l'église va organiser ce mouvement qui n'était qu'un mouvement laïque autour d'un chef charismatique, et très vite ça va s'organiser comme un mouvement d'église. Et au chapitre dernier où François donne son testament, il va exprimer son idéal, c'est-à-dire un retour spirituel aux sources évangéliques. Et François meurt en 1226. Quel est le visage spirituel de l'ordre jusqu'à la mort de saint François? Eh bien, c'est une vie évangélique de frères mineurs qui vivent au contact du peuple, au milieu du peuple, par un travail rétribué, qui participent au culte de la communauté chrétienne, qui prêchent en langue vulgaire, qui observe une spiritualité simple de paix et d'amour, et sans aucune critique contre l'Église, qu'il révère. Les clercs célèbrent l'office des heures, les frères sont des laïcs, et ils prient avec l'office des patères. Ils peuvent participer à la prière mentale. Ils ne sont pas soumis à l'obsolescence, à la, à l'abstinence perpétuelle comme dans le monde monastique, ils peuvent manger de tout ce qu'on pourra leur offrir. Ils annoncent la paix, ils renoncent au bien, ils évitent toute installation permanente, et non pas dans des couvents, et ils ne veulent pas avoir une vie commune. Les frères se veulent égaux entre eux. Le frère qui exerce l'autorité devra s'appeler ministre et serviteur, et non pas supérieur. Pas d'organisation monastique, même le vêtement est simple pour tous. Et comme moyen de subsistance, ils ont le travail et non la quête. Et bien, quand ils n'ont pas suffisamment de travail, ils peuvent effectivement quêter, mais ce n'est pas l'essentiel. Ils vont travailler avec tout le monde. François ne veut pas fonder un ordre de mendiants. Les frères vont garder leur profession. Ce n'est pas des mendiants au départ. C'est des gens simples et qui continuent à exercer une mentalité que François leur indique de frères mineurs, de petits frères, qui sont au milieu du peuple. Et alors, ce sont des... ils sont artisans, pour certains, ils vont garder leur travail. D'autres vont travailler dans les champs et ils seront rétribués en nature, mais pas en argent. Alors ça, c'est le grand combat de François contre l'argent. Ils se réunissent la nuit en ermitage, parfois sous le porche d'une église, et ils reçoivent l'hospitalité dans une maison qui les accueille. Ils prêchent plus par l'exemple que par la parole, une prédication pénitentielle qui est orientée vers la conversion. Évolution de l'ordre. À partir de ce moment-là, une évolution va avoir lieu. Pendant ces premières années, beaucoup de ceux qui entrent vont y a ce phénomène extraordinaire, c'est que la diffusion, c'est que François, grâce à son charisme, va attirer du monde. Et on va se trouver alors dans une évolution qui va d'ailleurs bouleverser toutes les données. Et les premières années, ceux qui rentraient sont des gens simples. Et voici que vont arriver une deuxième vague de gens qui sont tirés par le charisme de François. Et là, ce sont des clercs qui vont venir avec leur ministère. Et ce sont des savants aussi. Et ils vont demander une organisation beaucoup plus précise que ce qui est jusqu'à présent n'était simplement qu'une vie très simple. Qu'une vie très simple. Et les frères sont déjà en 1221, 3000 au chapitre. Quelques années, l'année suivante, ils sont 5000. On voit la progression tout à fait extraordinaire. Et ces frères instruits, appelés des frères sapientes ou des clerici, c'est-à-dire des frères savants, sont souvent des ministres qui veulent des éléments d'ascèse monastique. Alors déjà le combat, parce que ça se développe et que l'entrée de ces gens qui ne sont plus les premiers frères, qui sont déjà instruits, qui veulent quelque chose à la façon du monde monastique, vont bouleverser les données. Et ils veulent des éléments d'ascèse monastique que François ne voulait pas, contre des revendications au nom de son idéal à lui de pauvreté, de simplicité, d'insécurité de pèlerin, d'égalité, de simplicité. On voit immédiatement qu'il va y avoir des conflits à l'intérieur même, au moment où va grandir cette famille franciscaine. Mais et l'Église, elle a compris l'intérêt de cet afflux de ce que ça pouvait apporter pour l'évangélisation du monde, et elle va favoriser, non pas François, mais elle va favoriser au contraire ce mouvement de stabilité de l'ordre pour pouvoir parer aux dangers qui étaient avant tout des dangers de déviation du vocabondage, de l'individualisme, de l'oisiveté, et qui voudraient correspondre à faire de cette extraordinaire apport de tous ces gens-là quelque chose de réglé à partir d'une règle. François va mourir à l'âge de 44 ans. Et il laissera, en 1226, il meurt, et il laisse un héritage avec des tensions qui sont, les tensions qui sont apparues et qui vont grandir au fur et à mesure du temps. Et alors, il va falloir organiser. Et comment organiser un groupe? Il faut lui donner une règle. Et le combat va se faire déjà, le premier combat va se faire au sujet de la règle. Et la première concerne, faut-il absorber à la lettre? Ça a été le premier débat, la première question. Faut-il observer à la lettre la règle que François a écrite et qui va être acceptée par Rome? Ou bien, en même temps, est-ce qu'il faut aussi y ajouter l'obéissance au sacrement, au testament? Et la question du testament, c'est la question fondamentale qui va bouleverser toute l'histoire ensuite franciscaine. Parce que l'expression, le sentiment, c'est l'idéal que François donne à sa famille avant de mourir. Et cet idéal, il rappelle la pauvreté, la simplicité, donc qui va aller contre l'organisation nécessaire néanmoins d'une communauté qui a grossi et qui a besoin d'une règle, d'une besoin de constitution, pour ceux qui arrivent maintenant et qui sont bien sûr des héritiers de François, mais c'est loin, l'esprit va changer. À partir du moment où on entre dans des grandes maisons, on a une bibliothèque, on a un ensemble d'organisations, on n'est plus sur les routes, on n'est plus des vagabonds. Donc il y a un moment crucial qui va arriver. Les nouvelles recrues demandent une formation en vue de l'apostolat. C'est en vue des études, parce que l'ordre ne va pas s'enfermer comme un monde monastique, mais il va garder le François, ce mouvement d'aller évangéliser. Mais pour évangéliser, il faut quand même ces gens qui sont un peu instruits, ils veulent avoir des bibliothèques, ils veulent donc les couvents, ils veulent avoir une vie réglée comme la vie monastique. Et automatiquement, les prêtres vont se heurter à l'idéal primitif qui n'a été qu'un mouvement populaire à l'origine, pas plus. Réaction du clergé séculier qui se sent aussi, et en même temps, une bagarre va se faire entre le clergé séculier et l'apparition de ce nouveau mouvement. Et là encore, il y aura des difficultés de relations. Alors il faudra que le pape intervienne pour exempter les frères de l'autorité de l'évêque, les soumettant directement à l'autorité pontificale. Ça veut dire que même à l'intérieur, dans ce mouvement-là, même dans les paroisses, il y a déjà ce problème entre ceux qui sont issus donc de François et ceux qui étaient donc le clergé séculier. Tous ces changements vont amener des résistances. Un groupe révolutionnaire se forme qui va prendre le nom de Zélanti ou spirituel contre toutes les dispenses que lui ont été accordées pour adapter la règle et automatiquement un certain embourgeoisement de l'Église. Alors, on est loin, on voit très bien que entre ceux qui vont pouvoir continuer l'esprit de François, et puis cette nécessaire adaptation. Alors celui vouloir continuer l'adaptation avec tous ces gens instruits, on va les appeler des conventuels. Et les autres, on va les appeler donc des élantis, ceux qui veulent revenir et qui vont garder l'inspiration qui est inclue dans le testament de François. Et ce testament va jouer un rôle important à tous les mouvements de l'histoire. En 1257, Saint Bonaventure apparaît. Il est devenu nouveau ministre général et il va essayer de voir déjà la situation, qui est déjà une situation conflictuelle. Il va essayer de regrouper l'un et l'autre et il accepte la règle de 1223, mais il va refuser les adoucissements de la vie de pauvreté. Parce que dans cette règle, on a voulu donc l'adapter au monde, l'adapter aux circonstances, l'adapter. Et ce n'est pas du tout dans l'esprit de François. Et Saint Bonaventure, ce génie, d'essayer de concilier ces deux mouvements qui apparaissent et qui sont contradictoires, tout en acceptant, parce qu'il voit bien que c'est nécessaire, les adoucissements qui ont été déjà demandés de cette vie en pauvreté. Donc il va concilier à la fois la vie de pauvreté, mais en gardant l'esprit de François. C'était donc il estime qu'il n'est plus possible de vivre la règle, selon la lettre, comme le demandaient les élantis, comme déjà c'était l'occasion auparavant. C'est trop difficile, ce n'est plus possible. Mais si même ce n'est pas possible d'observer la règle de l'observer dans sa pureté, dans sa totalité, néanmoins, il affirme que la vie franciscaine est apostolique et que ce qui rend malgré tout des études nécessaires. On voit un compromis par le génie de Saint Bonaventure. En ce qui concerne la pauvreté, il dit que les frères, contrairement à ce que vous voulez Saint François, les frères accepteront une propriété, ils vont renoncer à une propriété personnelle, mais elle est communautaire, elle est nécessaire. Ils pourront user des biens nécessaires d'une manière sobre. Et cette œuvre, qui est une œuvre réaliste, vraiment très extraordinaire de la part de Saint Bonaventure, va ramener une certaine paix qui sera sanctionnée en 1260 par les constitutions de Narbonne. En fait, malgré cela, les deux groupes qui sont nés vont perdurer. Il y aura toujours, d'une part, la communauté qui va s'orienter vers une vie de plus en plus monastique, adapté aux exigences du plus grand nombre, et d'autre part, ceux qui vont vouloir l'esprit de François, qu'on appellera les spirituels, qui vont se tenir à l'esprit de Saint François, à la pauvreté radicale des premiers temps. Et le conflit va porter sur la pauvreté en s'appuyant à ce moment-là sur des idées qui traversent le temps et qui sont des idées apocalyptiques, et qui sont menées par l'abbé Joachim de Flore en 1202, et qui seront condamnés, mais qui servent au spirituel. Ce mouvement, qui est un mouvement, disons, de retour aux sources de pauvreté, les spirituels vont en profiter comme des arguments pour eux-mêmes. Joachim avait divisé l'histoire de l'Église en trois périodes, celle du Père, qui menait d'Adam au Christ, celle du Fils qui menait de l'amour et de la joie, C'était une église qui nous voulait spirituelle, sans hiérarchie, sans sacrement. Une église simplement de l'amour et de la joie. Et ce mouvement, ce mouvement va apparaître d'une certaine façon aussi avec une réflexion que l'on va faire sur l'Apocalypse. On en avait parlé un petit peu hier, mais ça pourrait être extraordinaire que de penser que c'est Saint Bonaventure qui va mener cette interprétation de l'Apocalypse, en voyant que le sixième sceau de l'Apocalypse, où il va trouver la présence, si on veut, de François et du peuple issu de François. C'est-à-dire que ce sera encore une justification par Bonaventure, une justification de ce que la famille franciscaine s'inscrit vraiment dans une révélation. Et c'est très important de faire ça. Et que ce qui en sortira, c'est de penser que l'ordre franciscain lui-même est un nouvel ordre qui a été appelé par Dieu pour instaurer la pauvreté, une nouvelle église spirituelle. Alors les spirituels qui sont contre le couvent vont profiter de ces ensembles de réflexions qui sont dans le temps pour accentuer leur opposition à tout ce qui n'est pas la pauvreté. Et ça va, en conséquence, cette guerre entre ces deux aspects de la famille franciscaine, à la fois le couvent et d'autre part la volonté absolument de vivre une vie spirituelle, alimentée par tous ces mouvements spirituels du temps, va augmenter la scission entre ces deux positions, entre ces deux. Alors il va falloir que le pape intervienne et il va mettre en 1312 les spirituels sous sa protection et il va essayer en même temps de corriger les abus de la communauté. Et on en arrive ainsi alors on va essayer de voir les siècles maintenant, on va les faire défiler rapidement. On arrive ainsi au XIVe siècle. Ce siècle est une période d'incertitude des temps nouveaux. J'ai les ravages, parce qu'il faut le mettre dans le contexte général de l'histoire, c'est le moment de la guerre de Cent Ans. C'est le moment de la peste noire qui va décimer l'ordre. 30 000 frères vont mourir en Italie. C'est le moment de du schisme d'Occident, avec des papes à Avignon, et dans l'ordre, plusieurs ministres qui vont être à la tête de certaines provinces. De nombreux abus de l'Église, du côté de l'Église, des privilèges que François ne voulait pas, des bénéfices, des prélatures, jusqu'à 568 évêques franciscains qui vivent sans un diocèse réel. Vous voyez, de ce moment du XIVe siècle, une période tout à fait d'incertitude par rapport à la réalité de la vie franciscaine. Et en 1334, des groupes vont apparaître qui vont demander un retour à l'observation intégrale de la règle pour remédier à ce moment de décadence qui apparaît au XIVe siècle. Et alors, de nombreux ermitages vont s'ouvrir. En 1349, réaction immédiate des conventuels qui traitent de menteurs et d'hypocrites un frère qui déclare qu'on ne peut pas mener la vie franciscaine selon la règle à l'intérieur de la communauté. Donc la bagarre est là entre ces deux courants. Et Paul de Trincy lance une réforme des couvents qui veulent une parfaite connaissance, obéissance à la règle. Donc la fin du siècle, du XIVe siècle, se termine par une obéissance qui va se propager, la volonté d'une obéissance, d'une observance fidèle à la règle, et qui va se propager et qui gagne l'Espagne. Le XVe maintenant, le XVe siècle. Quels sont les grands événements du XVe siècle? Et c'est d'abord l'épopée de Saint-Jeanne d'Arc. C'est la Renaissance avec la philosophie humaniste, le Quattrocento en Italie. C'est le temps des inventions, des découvertes. C'est en 1452 l'invention de l'imprimerie avec l'impression de la Bible de Gutenberg. En 1453, c'est cette date très importante de la chute de Constantinople qui va marquer la fin de l'Empire romain d'Orient et ainsi que la fin du Moyen Âge et aussi la fin de la guerre de Cent Ans. Donc on passe à une autre période de l'histoire. Et c'est avec la découverte, en 1492, de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. En 1498, c'est Vasco de Gama qui atteint les Indes par le détournement, le contournement de l'Afrique. Du côté de l'Église, dans ce contexte-là, nouveau de l'histoire, quelle est la situation de l'Église et du franciscanisme? Eh bien, ce siècle va être celui de la prédication franciscaine. Et on aura de très grands prédicateurs à cette époque. On aura Bernardin de Sienne, Saint Jean Capistran, Saint Jacques de la Marche, Albert de Jarziano. Ils consacrent leur vie et le travail au peuple en combattant l'avidité à la vie au travail. Au peuple, le peuple qui veut le gain, et il lance cette spiritualité, il lance le retour à ce qu'on pourrait dire, donc, l'amour franciscain pour les pauvres, pour les malades, et le soin aussi de la peste. Tous ces pauvres dans les campagnes et dans les villes, et ils vont les regrouper dans le tiers ordre des croyants et des hommes désireux de réforme. Et alors, en 1418, aura lieu le Concile de Constante qui va mettre fin au schisme d'Occident après 10 ans de schisme et qui va rétablir l'unité officielle de l'Église. Les observants du Midi de la France vont profiter du Concile pour obtenir des permissions de vivre selon leur vue à eux, c'est-à-dire ils vont essayer de profiter de ce mouvement pour pouvoir affirmer leur vie dans la communauté. Et dans beaucoup d'endroits, les observants érigent des maisons dites de réforme où ils peuvent vivre selon la règle et toute la tradition de François. Alors, en 1517, les observants d'un côté, les conventuels de l'autre, vont se rencontrer pour essayer, une fois de plus, de trouver des points communs, une vie commune. Mais ils ne s'entendent pas. Et alors que le pape a été obligé d'intervenir, il va regrouper tous les frères désireux de réforme sous le nom de observants et tous les autres qui seront sous le nom de conventuels. Il donne à mi général et le sceau officiel de l'ordre sous le nom de ordre des frères mineurs. Les conventuels, de leur côté, deviennent donc en même temps un ordre indépendant avec un ministre propre. L'ordre franciscain, à ce moment-là, est divisé en deux branches. On aura d'un côté les conventuels et de l'autre côté les observants. On arrive au XVIe. Eh bien, c'est un siècle extraordinaire parce que c'est le siècle qui voit la réforme capucine. Parmi toutes les réformes, La réforme capucine est une très grande réforme, et qui a été une réforme mystique très importante. Alors, voilà qu'arrive un homme, nous sommes en 1526, arrive un jeune prêtre, peu cultivé, un prédicateur populaire, il s'appelle Matthieu de Bacchio. Il réclame de vivre la règle à la lettre. Allez, on revient à nouveau avec l'esprit de François. Il demande au pape l'autorisation de le faire avec un nouvel habit. La question de l'habit va beaucoup jouer dans toutes les réformes. Et alors, il commence une prédication fervente, personnelle, mais le provincial de la communauté à laquelle il appartient, qui s'appelle Jean de Fano, le fait incarcérer au couvent de Forano. Et Forano, c'est le lieu... C'est alors que va intervenir... Ça, c'est tout à fait extraordinaire dans la famille capucine. C'est les femmes qui vont sauver l'ordre capucin. Ce sont une première femme qui s'appelle Catherine Cibot, qui est duchesse de Camerino et qui est la nièce du pape, Clément VII, qui va intervenir pour faire libérer Matthieu. Et alors Matthieu est libéré contre le Jean de Fano et il va reprendre son ministère de prédicateur itinérant. Et la même année, 1525, deux frères, Louis et Raphaël de Sombronne, veulent eux aussi mener une vie d'ermitage, une vie de prière, qui refuse et toujours le provincial auquel ils appartiennent, c'est-à-dire la communauté, Jean de Fano, qui refuse aussi à ces deux personnes de pouvoir mener cette vie de retour aux sources franciscaines. Alors il est fait incarcérer, mais ceux-ci vont s'enfuir et ils vont rejoindre les Camaldules, et ça va les sauver. Et en même temps qu'il rejoint les Camaldules, c'est ce qui va aussi marquer la famille capucine. Elle est née d'une certaine façon avec les Camaldules. Et on va prendre des Camaldules qui sont, moi j'ai beaucoup étudié les Camaldules, qui sont un mouvement à la fois érémitique, avec des petites regroupées autour d'une église, avec des petites maisons, et c'est cet aspect des choses qui va aussi marquer la famille capucine. En 1525, Louis et Raphaël de Fossombrove veulent une vie d'ermitage et que refuse toujours Jean de Fano. Donc, et c'est à ce moment-ci que ces deux-là vont rencontrer Matthieu, qui d'un côté faisait lui-même ses prédications personnelles, et ils vont demander de se séparer de la communauté dirigée par Jean de Fano. En réponse, Jean Fano les fait incarcérer au couvent de Forano. Et c'est alors que, une fois de plus, en 1528, va apparaître une duchesse, la duchesse de Camerino, Catherine Cibot, qui a déjà été intervenue pour libérer Matthieu et qui à nouveau va intervenir et va faire libérer de l'incarcération du couvent de Forano. Et va arriver un quatrième frère, et ça c'est les débuts de la réforme capucine, un quatrième frère qui s'appelle Paul de Chioggia, mais peu importe son nom, et ces quatre frères vont se mettre automatiquement sous la protection de la duchesse de Camerino. Et aujourd'hui, les frères qui sont dans notre ordre, qui ne sont pas très nombreux, mais qui font leur formation, ils font leur formation à Camerino, donc en Italie, parce qu'à cause de toute cette grande tradition, Matthieu, lui, va reprendre sa vie de prédicateur itinérant et les trois autres vont mener ensemble une vie de fraternité. Et en 1528, peu de temps après, on est toujours dans ces premières années de la Réforme, eh bien, les frères vont mener ensemble, les trois frères vont mener une vie de fraternité. Et en 1528, grâce encore à la duchesse, le pape va reconnaître cette fraternité. Il va donner le droit d'accueillir des novices. Alors, à partir de ce moment-là, donc c'est contre la communauté que va naître une nouvelle branche, d'une certaine façon, parce qu'ils sont trois au départ, et voilà que vont accourir des gens qui appartenaient à la communauté, mais qui voient la vie de nouvelle, de retour aux sources, que ces trois-là mènent, et ils sont attirés, et ils vont accourir pour fonder une vie qui va se faire avec les ermitages. Un grand nombre de frères d'observants arrivent. Alors il va falloir multiplier les ermitages pour les recevoir. Et c'est alors qu'en 1529, on va écrire les premières constitutions de la vie érométique à un ermitage qui s'appelle d'Alba Cina. Les frères seront salués du nom de capucins à cause de leur nouvel habit, qui aura un long capuchon. Ce nom va leur rester, et grâce à la duchesse, un nouveau couvent va être ouvert à Rome, contre toujours la communauté, avec Jean-Philippe de Fanot. Et ce qui va provoquer Louis, qui est un des trois, qui prend la tête du mouvement, va recevoir le titre de commissaire général des Capucins. Automatiquement, c'est une réaction violente de la part du ministère de l'Observance qui demande l'annulation des privilèges qui sont accordés aux Capucins. Et une fois de plus, au moment où tout va sombrer, c'est encore une femme qui va intervenir. Ils sont secourus par une femme qui s'appelle Vittoria Colonna et le duc de Navarre, tous les deux qui vont sauver ce mouvement naissant d'ermitage qui vient d'apparaître. Et alors arrivent à ce moment-là des hommes de très grande valeur, Bernardin d'Asti, François Jessy, docteur en droit canonique, Bernardin Occhino, célèbre prédicateur, Jean de Fanot. Et celui qui était contre ce mouvement, Jean de Fanot, va rentrer dans ce mouvement de vie érémitique qui vient de naître. Et en 1536, on aura cet embryon d'abord qui s'est déjà agrandi, et ce sera les premières constitutions que ce groupe va se donner, et ces constitutions qui seront les constitutions c'est les constitutions de Sainte-Euphémie et qui ont eu lieu à Rome. Alors, ces constitutions, qui sont les premières constitutions de la vie, pour organiser la vie capucine, ce sont des constitutions extraordinaires, mystiques. Elles sont vraiment voulues comme étant un retour aux sources, comme étant une vie mystique contre la communauté. Un vicaire général va être donné à ce mouvement, c'est le vicaire Bernardin d'Asti. En 1538, un chapitre va élire Bernardin d'Occhino. Mais il va y avoir un moment extraordinaire là qui va se passer presque. On va connaître presque une rupture, une chute, un moment donc très, très délicat, parce que Bernardin d'Occhino, qui va être le le chef de ce mouvement-là, va passer au protestantisme. Et alors, à ce moment-là, il semblerait que presque même l'œuvre, l'œuvre capucine, est prête à sombrer. Cette apostasie va compromettre définitivement la réforme. Et le pape, heureusement, va nommer François de Jessy comme vicaire général, et il va pouvoir continuer cette réforme en cours. L'ordre va s'organiser. Ce petit groupe, donc, va grandir, et il va grandir avec l'afflux des frères de la communauté qui vont rejoindre ce mouvement, le mouvement de la réforme capucine. Et ça va grandir de plus en plus. Et c'est le moment, en 1563, de la fin du Concile de Trente. C'est le temps de la réforme contre les protestants. Et c'est alors que les capucins vont jouer un rôle considérable pour ramener dans l'Église les chrétiens qui sont passés au protestantisme. Ils vont travailler contre l'humanisme du temps. Ils organisent des missions, les 40 heures. Ils confessent. Ce sont les apôtres de la charité. Et ils vont se distinguer lors de la peste. Beaucoup vont en mourir. Ils vont servir dans les aumôneries militaires. Ils seront de brillants diplomates, des conseillers même choisis dans les cours européennes. Et en 1574, le pape Grégoire XIII va permettre aux capucins de s'étendre partout dans le monde. Donc, cette histoire qui est partie de simplement de trois hommes, hein, et qui voit un retour aux sources dans l'esprit de François, par les circonstances et grâce à l'aide de ces deux femmes qui sont intervenues, qui ont sauvé donc ce mouvement en cours, qui risque de disparaître, eh bien ce mouvement attire les gens de la communauté, ça grandit, et ça fait de la réforme capucine un ordre nouveau, à l'intérieur même de la famille franciscaine, et qui a un ordre au fond de ces constitutions, qui est un ordre de prière et un ordre mystique. Il faudrait qu'on puisse lire effectivement les constitutions de Narbonne, les constitutions qui donc expriment cette spiritualité capucine. On arrive au XVIIe, et à ce moment-là, l'ordre des capucins est reconnu. Toute la moitié du XVIIIe sera une expansion de cet ordre, une floraison de l'ordre. En 1619, les capucins vont acquérir un ministre général qui va être indépendant du ministre général conventuel. Donc, d'une certaine façon, les capucins ont réussi à sortir du monde conventuel et maintenant, ils ont pour eux-mêmes un ministre général qui va donc organiser la vie capucine. Alors, quels sont les traits marquants de la spiritualité franciscaine, de la spiritualité? Eh bien, ce sont des gens qui vont s'opposer. C'est des savants parmi eux. Et ils s'opposeront au quiétisme, au jansénisme de l'époque. Ils auront une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, une grande dévotion à la Vierge Marie, patronne de l'ordre. Ils vont donner des exercices de vie spirituelle de 10 jours pour les religieux, pour les laïcs, des méditations, des sermons, des examens de conscience matin et soir. Ça veut dire qu'ils vont s'occuper vraiment de la vie spirituelle du peuple. Et ils vont garder ce côté que François avait, du soin des pauvres gens, des gens simples, le peuple. Mais en même temps, ils se veulent étroitement unis à l'Église. Et le pape Benoît XVI, à l'époque, le reconnaît lorsqu'il écrit au ministre général: « À l'ordre des franciscains revient l'honneur d'être aujourd'hui l'unique exemple de la vie évangélique. Ceux-ci se manifestent dans l'apostolat par leur défense de la foi catholique, par la lutte contre le protestantisme et aussi par la manière simple, populaire, avec une force de persuasion pénétrante et qui vient de leur vie de prière. Ces premiers capucins vivent donc ce genre de spiritualité. Ils apportent leur voix, leurs soins aux pauvres, aux pestiférés, aux malades, à tous les rejets de la société. Et pendant l'épidémie de la peste qui a eu lieu en Italie dans les années 1630-1631, plus de 400 capucins vont tomber victimes de cette terrible maladie. Alors, à partir de ce moment-là, on va veiller à l'admission des candidats à leur formation. Et par exemple, en Bavière, parce que pour remédier aussi à des excès, en Bavière, par exemple, pour prendre un exemple, sur 300 candidats pour entrer dans la vie capucine, on n'en reconnaîtra que 19 qui seront admis dans l'ordre. À un moment, on aura aussi de très nombreuses publications, donc dont Jean-Louis va nous parler, citons Benoît de Canfield, Constantin de Briançon, Jean Évangéliste. Bon, les couvents maintenant vont être bâtis hors des villes. L'organisation va être simple et sobre. Après la réforme des Capucins, eh bien, il semble que l'histoire se termine au point de vue des réformes. On ne voit pas d'autres mouvements réformateurs, sinon peut-être de nos jours. Les frères du bronze. C'est une grande affaire, ça, l'affaire du bronze. Parce que ce sont des gens qui, donc, aux États-Unis, ont voulu revenir à une vie des origines. Et malheureusement, ils étaient des capucins. Et les supérieurs capucins n'ont pas voulu les accepter. C'est à fois, et c'est dommage. Ils sont en France, je crois, ils ont essayé de faire un essai, mais que ça n'a pas réussi. Donc, à partir de ces frères qui sont sortis des Capucins pour une vie plus conforme à Saint François, l'ordre capucin là n'a pas voulu reconnaître. Alors, ce sont d'autres groupes des survivants qu'on peut voir à cette époque, qui restent quand même, et qu'on peut citer parmi eux des réformes qui ont eu lieu au fur et à mesure du temps. Il reste les Deschaux, qui étaient des franciscains qui refusaient les sandales. On a les Colettins, qui ont suivi la règle de Sainte Colette. Les Amadéites, qui étaient en Italie. Les Claréniens, qui était fondé par Ange Clareno, les Alcantara, qui était fondé par Saint-Pierre d'Alcantara, des maisons de recollection qui firent le franciscanisme d'ailleurs en Bretagne, et dont le frère Marcellin était héritier de ce mouvement-là en Bretagne, lui, de ces maisons de recollection. Et c'est pourquoi il y a eu une entente beaucoup plus grande entre lui, frère masculin, et nous, parce qu'il y a quelque chose de commun dès l'origine. Eh bien, tous ces groupes vont continuer à exister. Alors, on aura donc la grande famille de Capucines, et puis tous ces groupes qui reviennent de l'histoire et qui sont toujours vivants. Alors, c'est le pape Léon XIII qui va les supprimer tous. Il va supprimer tout ce groupe, tous ces anciens restes des différentes réformes pour faire une famille, pour faire un ordre qui va regrouper tous ces anciens, toutes ces anciennes mouvements. Et alors, on aura, à partir de ce moment-là, c'est dans une bulle, félicitate quadam, bon, il va, sous le vocable de frère mineur, il va regrouper toutes ces diverses réformes sous le nom uniquement des frères mineurs. Alors, ce qui va expliquer trois ordres, les franciscains, donc, il va leur donner le nom de franciscains, et ensuite les conventuels qui vont rester, et les capucins, parce qu'ils sont un nombre important. Donc la famille franciscaine, à ce moment-là, comportera trois ordres. Mais ce n'est pas fini, parce que quand on a trois ordres, on a trois généraux, et lesquels maintenant vont passer les premiers, il va falloir régler un autre problème, parce que ça fait partie de la famille humaine. Quels sont les premiers qui vont entrer par la porte, là? Est-ce que c'est les capucins? Est-ce que c'est les franciscains? Est-ce que c'est les conventuels? Et alors, la question va se poser de la succession hiérarchique des ministres généraux. Et c'est Pidis qui va régler la question par un bref en 1909, que les ministres généraux des trois branches franciscaines sont et doivent être considérés égaux en dignité et autorité comme des vicaires et des vrais successeurs de Saint François, chacun dans sa famille respective. Tous trois descendent légitimement du même père séraphique dans la lignée de leurs prédécesseurs. Voilà, il fallait absolument assurer que c'était authentiquement trois ordres qui faisaient partie de la famille, à titre vraiment de successeur de Saint François. Et on a besoin de tout ça, parce que c'est très important pour reconnaître un ordre et de reconnaître sa valeur et son origine comme descendant véritablement du père séraphique. Les trois ordres de la famille franciscaine vont être considérés comme trois branches d'un même arbre, avec Saint François pour tronc et racine. Et leurs membres sont, avec François, déclarés comme valablement, authentiquement, des frères mineurs. On arrive au XVIIIe. Avec ce siècle, va se manifester... Les siècles, c'est extraordinaire, hein, parce que quand on voit l'histoire, c'est un yo-yo, les siècles. De voir comment les événements qualifient, se réalisent au fur et à mesure des siècles, des siècles qui sont des siècles de vie prépondérantes, et d'autres, c'est de la décadence. Et au XVIIe, l'accroissement énorme des religieux et des prêtres, qui avait déjà affaibli la dynamique spirituelle de l'idéal, la mentalité rationaliste du temps va s'opposer à la foi. Et on arrive à la Révolution française, qui est le point culminant de la décadence. En 1790, tous les ordres religieux sont supprimés en France. Les religieux sont chassés de leur couvent. Ils doivent choisir entre le serment de la nouvelle constitution ou bien l'exil. 30 sont mis à mort, 420 sont déportés. Et pendant 50 ans, on ne pourra plus établir de vie commune en France. Il est impossible de convoquer des chapitres. Chaque frère est réduit à lui-même pour maintenir sa vie religieuse. Et il est coupé de tout lien communautaire. Alors, ceux qui vont survivre au 19e, qui vont survivre à cette situation, vont vivre en dehors de toute vie communautaire. Et beaucoup n'ont pas eu le courage de retrouver une vie religieuse avec un règlement précis. Et ceux qui vont surmonter ces épreuves vont entreprendre une restauration. Ils furent des hommes profondément fidèles et ils veillèrent à éviter tout relâchement, toute permissivité. Les nouvelles fondations se voudront un retour à la rigueur franciscaine primitive, mais avec une souplesse aux exigences du temps, des temps nouveaux. Nous aurons deux grands saints de cette période, Conrad de Parzam et François-Marie de Comporoso. François de Conrad était un portier du couvent, il l'a été pendant 41 ans. Il a accueilli un nombre incalculable de pauvres, de chômeurs, auxquels il a donné à boire et à manger. Et le frère Marie-François de Comporoso fut un quêteur à Gênes. En 1884, est élu à la tête de l'ordre le père Bernard d'Antermat. Et il va donner de nouvelles constitutions. Tout devrait être renouvelé, repris, à cause de cet effondrement qui a eu lieu à cause de 1789, et il va essayer de refaire donc sur certaines ruines, il va refaire l'ordre, il rétablit de nouvelles résolutions, de nouvelles constitutions, il refait une réinterprétation de la règle, une formation des novices, et pendant 24 ans, il va réorganiser l'ordre par de nombreuses visites qu'il va faire des provinces diverses de l'ordre. Ça veut dire donc qu'on va surmonter la crise de 1789. Le 20e va connaître le bouleversement général de la Première Guerre mondiale, à 14-18. Elle n'a pas causé de préjudice particulier aux familles franciscaines. Et à la fin de la guerre, les frères vont pouvoir reprendre leur vie et leurs activités plus librement qu'avant. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on aura une multitude d'initiatives qui auront pour lieu la propagation de l'Évangile. Mais il y a la guerre civile qui a eu lieu donc en Espagne, qui fut cruelle. Pour 226 franciscains et 94 capucins qui furent assassinés, en plus de 80 membres d'autres instituts franciscains. L'ordre va déboucher maintenant dans une nouvelle période, et qui va être une période après la Deuxième Guerre mondiale, avec un ministre général, Clément de Milwaukee, en 1952, et les Capucins, alors, vont s'engager dans de nouveaux combats, d'abord en faveur des ouvriers de l'industrie, peu formés, peu payés, toujours menacés par l'alcoolisme et le chômage. Le mouvement syndical est à ses débuts, et de nombreux Capucins vont s'engager pour aider cette action, non seulement par l'action, mais par la parole. Et le père Clément de Milwaukee va donner une orientation pour adapter la vie capucine à l'après-guerre. Il fut élu une deuxième fois ministre jusqu'en 1964. Eh bien, la crise spirituelle eut pour conséquence de poser la pertinence de la vie religieuse, d'entretenir des structures vides de sens auprès des hommes de ce temps. Et certains ont voulu purifier l'ordre, purifier des structures qui n'avaient plus de valeur en elles-mêmes, et ils voulaient se débarrasser de pratiques qui ne correspondaient plus à la vie moderne. D'où on en arrive à la crise de Vatican II. Vatican II, 1962-1965. Et c'est alors que les ordres franciscains vont entreprendre une révision de leur constitution. Beaucoup furent déconcertés par la rénovation de Vatican II, qui bien sûr connut de nombreux abandons, avec de plus en plus le déclin des vocations. La collaboration des familles et des ministres aboutit en 1959 à la célébration d'un renouveau commun de la profession des quatre mini-générales entre les mains de Jean XXIII à la basilique de Latran. Il y eut la retraite aussi de quatre mini-générales et de leur définitoire pour une retraite sur le mont Alverne. Ce qui veut dire que ce qui disait par exemple le ministre général Clément de Milwaukee, à ce moment-là, il faut regarder l'histoire telle qu'elle est, voir tout ce qui a été nouveau apporté, et il faut maintenant s'y adapter. Et moi, j'ai connu dans ces années, c'est en fait cette fameuse adaptation au monde, et qui a été une des grandes questions qui s'est posée. Et au chapitre de 64, par exemple, Clément de Wilsingen, qui est donc le ministre général, écrit « Nous devons, dans une recherche commune, essayer de déterminer ce qu'est pour notre temps le contenu d'une vie pauvre, austère, humble et obéissante, non seulement à l'intérieur du couvent, mais aussi à l'extérieur. Comment nous pouvons donner aujourd'hui un témoignage de vie évangélique dont la principale caractéristique soit l'amour fraternel de vrais mineurs, ce qui veut dire un amour fraternel qui se sent lié particulièrement aux gens ordinaires. Notre ordre franciscain surgit d'une réforme de l'ordre séraphique. Il ne peut se reposer avant de voir trouver en ce domaine une solution vraie. De nouvelles constitutions furent alors promulguées comme une interprétation nouvelle et authentique d'une règle adaptée au temps et comme un moyen sûr de renouveau spirituel dans le Christ pour apporter une aide efficace à l'apostolat. Et c'est ainsi qu'en 1970 a été élu Pascal Rywalski comme ministre général. Une commission eut lieu pour faire un examen scientifique conduit pour l'état actuel et renouveau de l'ordre. Un questionnaire fut envoyé à tous les capucins du monde entier. Un conseil plénier devait traiter de la poursuite de ce renouveau. Il s'est réuni une première fois à Quito, en Équateur. Alors les capucins devaient, conformément, s'intégrer profondément dans les communautés locales, comme un ferment de justice, de promotion sociale. Et en 1973, un nouveau conseil plénier de l'ordre s'est réuni à Thésée, avec comme thème principal la prière. En 1974, un nouveau chapitre général, le ministre général écrit « Nous devons bien connaître et transmettre la tradition capucine propre qui nous distingue des autres familles franciscaines, le charisme franciscain et l'originalité propre de la vie capucine, provenant d'une saine tradition de l'ordre, doivent donc être écrits clairement et clairement expliqués. » En 1868, une troisième réunion du Conseil plénier de l'ordre en Suisse s'est réunie pour réfléchir sur les activités missionnaires évangéliques de l'ordre. Et c'est cette année-là, en 1978, qu'il fut le 450e anniversaire de l'ordre, compté alors 12 000 capucins qui vivaient dans 74 pays. Eh bien voilà, c'est à ce moment-là, nous arrivons en 64. Et c'est à ce moment-là que moi je suis entré dans cet ordre. J'ai vécu au noviciat des capucins et je suis maintenant sur un terrain personnel de ce que j'ai vécu. J'ai reçu du Seigneur la grâce d'entrer chez les frères capucins au noviciat du Mont. Je suis sorti du monde, je suis entré dans une vie monastique au départ avec ces temps de prière, d'assaise collective, et ce fut peut-être pendant ces années de noviciat pour moi une des plus belles années de ma vie. À la sortie, j'éprouvais un choc. À la sortie de ce temps de noviciat, car la vie venait de changer. Une vie d'un seul coup, la vie conventuelle que je venais de connaître était remise partout en question. Le mouvement de contestation s'est poursuivi pendant les années 68 et après. Il va exprimer une sorte de sécularisation. Alors on aura l'abandon de la bure, la naissance de petites fraternités en plein monde, les frères au travail. Et j'ai suivi ce mouvement dans les premières années vraiment avec un très grand intérêt. Je me suis demandé, du fait que je venais d'une famille ouvrière, si je n'allais pas y entrer. Nous avons reçu... Non, donc j'ai pris l'autre chemin. J'ai pris celui de la prière qui m'était plus profond et qui m'a dirigé vers la question de l'unité de l'Église. J'ai reçu la permission de poursuivre cette orientation, qui fut celle des rencontres en Angleterre avec la construction de la Cassine. Et là, à la Cassine, nous avons reçu de ces frères qui s'étaient engagés dans ce mouvement nouveau de présence au monde par le travail. La question de la pauvreté a disparu dans les échanges. Ça m'a beaucoup frappé. Parce que d'une certaine façon, la pauvreté, c'était celle du monde. On avait compris qu'on menait une pauvreté qui était un peu illusoire par rapport à la réalité de ce que vivaient les gens. L'ermitage était reconnu et le frère Évremont décidait de venir nous rejoindre. Nous étions les deux premiers frères de la Cassine avec Jean-Pierre. Et pendant ce temps, l'évolution vers une vie apostolique en petite fraternité de travail, aux présences au monde, s'affirmait comme en fait étant la vie franciscaine authentique. Alors l'ermitage évoluait vers une fraternité d'accueil. Et ce qui me fit demander un temps sabbatique. Pourquoi ? Parce que je trouvais que la tradition érémitique capucine était en mise en cause à cause de ce mouvement de sécularisation, de mouvement de travail au monde. Alors j'ai demandé un temps temps où je suis parti en Terre Sainte, etc. Et au retour, j'ai eu l'impression que l'ermitage ne correspondait plus à la recherche de la vie franciscaine, qui se présentait maintenant avant tout comme une vie apostolique en plein monde. Certainement pour témoigner ostensiblement des valeurs chrétiennes dans un monde sécularisé. Et ce sentiment que j'ai eu à ce moment-là devait demeurer et même s'amplifier avec une parole du ministre général il n'y a pas longtemps, il y a 5, 6, 10 ans, je ne me souviens plus maintenant, qui, au cours d'une rencontre de frères dans un chapitre des Nâtres, a répondu à ma question de savoir que je lui posais s'il existait dans le monde qu'il connaissait la tradition des ermitages. Et il m'a répondu que ça, d'une façon brusque, comme un tranchant, les ermitages n'existent plus dans l'ordre capucin. Pour moi, ça a été vraiment un coup de couteau, quoi. Et est-ce que cela signifierait que la spiritualité de cette tradition capucine qui a tant marqué, qui est à la fois, bien sûr, une tradition de l'amour des pauvres, de l'engagement dans la charité, mais qui est aussi marquée par François, par la prière. Est-ce que et particulièrement par les ermitages, est-ce que cette tradition est mise aujourd'hui en question ? Eh bien, j'ai reçu cette année un jeune en formation, et il me semble que pour les jeunes d'aujourd'hui, C'est le modèle ancien du couvent qui revient, avec une douzaine de frères, pour une vie commune, avec des activités apostoliques à l'extérieur. Et que c'est cela qui me semble, à travers ce garçon, à travers ce frère, comme la recherche actuelle des frères capucins. Que sera l'avenir de l'ermitage, qui existe encore aujourd'hui aux Sourtes, mais qui demain va disparaître, peut-être. Peut-être un témoignage, simplement, qui portera du fruit. J'ai l'impression que tout cela, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de sécularisation qui nous emmène à quelque chose de nouveau. Et je voudrais penser maintenant aux sœurs Clarisse, qui sont les sœurs qui nous ont accueillis à Alençon et qui ont permis la construction de la Cassine. Je voudrais évoquer leur mémoire. Elles m'ont nourri à un moment où je n'avais pas de ressources, au moment où je travaillais pour la construction de l'ermitage. Elles ont apporté leur soutien de différentes façons. J'ai pu suivre aussi leur désir, leur combat pour s'ouvrir au monde, pour se détacher de pratiques anciennes. Elles aussi, et c'est dommage qu'il n'y avait pas les sœurs là avec nous, qu'elles ont mené aussi un combat d'argent-normantaux pour s'adapter à une vie clarisse différente, ouverte, et qui a reçu quand même ce mouvement de Vatican II. J'ai pu suivre leur combat. Leur combat était pour trouver une nouvelle règle, plus ouverte, avec un changement d'habit. Il n'y a que celles de Toulouse qui ont conservé leur habit. Et par un changement, donc, elles ont donc abandonné l'habit traditionnel, la guimpe, pour un habit plus simple. J'ai travaillé pendant ce temps-là, toutes ces années d'Alençon, pour permettre de descendre de l'étage où elles étaient enfermées en haut, et en bas, il y avait l'Eucharistie, pour qu'elles puissent descendre et puissent se mêler à tout le monde, tout en étant séparées. C'est ce qui a fait les grands changements dans la chapelle des sœurs. Donc ça veut dire qu'elles ont elles-mêmes subi, enfin ressenti, ce mouvement de renouveau. Il a fallu donc réaménager la chapelle. Autre changement, il a fallu enlever la grille en fer forgé qui séparait les sœurs de leurs visiteurs pour un face-à-face qui permet un meilleur dialogue. Eh bien, j'en ai profité aussi pour récupérer cette grille, merveilleusement travaillée dehors, pour en faire le chandelier qui est en ce moment dans notre ermitage, et puis qui fait la mémorale de la chapelle de l'ermitage. Et elles m'ont donné l'impression, à ce moment-là, elles aussi, de profiter du renouveau pour une vie nouvelle. Et je leur suis infiniment reconnaissant. C'est dommage, les sœurs ne sont pas là, parce que je me suis dit, je vais leur demander leur avis pour savoir comment elles aussi avaient vécu ce renouveau qui avait atteint en fait toute l'histoire franciscaine. Alors voilà ce que je crois que je peux m'arrêter là. C'est un parcours rapide, mais quel est le sens de ce parcours rapide? Une fois, je crois que je l'ai dit, c'est ce qui me semble à moi, c'est d'abord cette fidélité à François et au Testament, qui restera toujours le lieu du combat. François, le charisme de François ne disparaîtra pas. Et c'est ma foi, que même s'il y a des échecs dans ce qu'on appelle la vie d'ermitage, j'ai écrit récemment, et si le Seigneur voulait que ça dure, et si François voulait que ça dure, parce que l'ermitage est très condamné aujourd'hui, au même moment, dans le monde capucin, au même moment où les frères franciscains ouvrent à Vézelay. L'ermitage de Vézelay, le premier ermitage en France, où est venu le frère pacifique.
La Cordelle.
Il y a un renouveau à la Cordelle. Et les Capucins qui ont un trésor de vie spirituelle, de vie mystique, hein, dont nous parlera Jean-Louis, eh bien, c'est dommage quand même qu'on s'en aille pour faire des rencontres en Méditerranée, un peu partout. Et je ne suis pas contre, parce que dans le temps, il y a besoin de ces rencontres. Mais le fond mystique, c'est quand même l'union à Dieu, c'est la prière. C'est la prière, c'est le sens le plus profond de la réforme qui a été faite par les constitutions, particulièrement d'Albacina, au tout début, et qui sont des constitutions qu'on pourrait étudier, bien sûr, et qui marquent combien la famille capucine a été une famille qui était marquée par la recherche de Dieu. En même temps qu'elle est l'expression de cette charité. Mais la charité ne vient pas sans la prière. Le fond de la prière, c'est la charité. C'est l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui commande. Alors si on coupe le reste, une présence au monde qui n'est plus qu'une présence au monde est vaine. Elle n'a plus de force. Voilà ce que je ressens, moi. C'est ce que j'ai. Et ma foi, c'est que même si c'est un échec aujourd'hui, puisqu'on est avec, on est tous les deux avec Jacques pour maintenir une vie d'ermitage qui n'est pas reconnue par aujourd'hui, et qui, enfin, j'ai vu combien, même par des réactions des frères, combien c'était pas du tout, on était un peu des Mohicans, quoi. Et alors, malgré tout, même si c'est un échec, moi je crois profondément que sortira un jour à nouveau des réformes comme le bronze, des réformes que, et très souvent j'ai entendu ça des frères parler que peut-être la nécessité de nouvelles réformes pour rétablir cet ordre, pour rétablir cette dimension mystique qui était à l'origine et qui a été le fondement même de la réforme capucine. C'est une compréhension. Que veut François? Moi, je pense que l'ermitage, malgré tout, continuera son chemin. Alors, je trouve que dans notre famille à nous, on a parlé hier, hein, combien l'ermitage avait été aussi au fond de notre vie franciscaine, et aussi combien, en même temps, la famille avait aidé cette vie d'ermitage. C'est-à-dire que ces deux composantes resteront, mais la composante présence au monde nécessaire. Nous ne sommes pas des chartreux. Nous sommes des gens ouverts au monde. Et plus particulièrement, je crois que tu nous en parleras davantage. Nous sommes des gens ouverts. François même voulut au départ aussi s'occuper des frères, ce qu'on appelle les frères laïcs, enfin les frères du monde. Nous sommes donc très convaincus que l'apostolat fait partie. Mais nous sommes autant convaincus que sans la prière, l'apostolat n'existera pas. Et la prière, c'est quand même ce que le Seigneur nous a donné à nous tous ici. À partir, c'est pas un charisme particulier. Hein. C'est que nous avons trouvé ensemble que la prière nous était nécessaire pour vivre. Et que c'est à partir de la prière qu'on a établi les uns et les autres, nous avons établi notre vie. Et nous savons par expérience ce que veut dire la prière. ce que veut dire ce qu'apporte la prière. Voilà ce que ça a été bon. C'est comme j'ai balayé les siècles très rapidement pour en aboutir à cela. Voilà.
Merci. Merci.